On est un peu secoué parce que le premier challenge quand on a préparé la COP21, c'est que les deux premiers émetteurs soient à la signature de l'accord de Paris. Et on savait que la présence de l'un conditionnait la présence de l'autre. Donc on avait réussi, notamment en faisant un vrai travail diplomatique avec la Chine, à probablement entraîner également les États-Unis. Et c'est une conditionnalité également pour que les plus petits émetteurs soient dynamiques sur ces sujets-là. Donc s'il y a un signal, de retrait des États-Unis qui reste à confirmer. Pour l'instant, c'était dans des promesses de campagne. C'est pour ça que je dis en souriant que j'espère que ça va être le premier président qui ne va pas tenir ses promesses. Voilà. Mais ça arrive au pire moment. Voilà. Pour moi, si jamais il concrétisait un retrait sur ce sujet-là. Voilà. En même temps, comme je pense que cet homme est au moins habité par l'intérêt des Américains, c'est quand même un pays qui n'est pas épargné par les conséquences des changements climatiques. Même si, évidemment, des événements climatiques font moins de victimes qu'à Haïti, il y a quand même des événements à répétition, pas simplement d'ailleurs des tornades ou des typhons, des périodes de sécheresse, des incendies. Et puis, il y a tout un pan entier de l'économie aux États-Unis qui a déjà pris les devants sur la transition écologique et énergétique et qui ont probablement dans leur logiciel que l'économie de demain, c'est justement l'économie qui va répondre aux enjeux climatiques. Donc il y a forcément aussi des forces de résistance qui vont se mettre en marche. Et également, je n'oublie pas que les plus climato-conscients que j'avais rencontrés aux États-Unis, c'était dans le milieu de la défense, chez les militaires et au Pentagone, qui ont compris que la sécurité nationale des États-Unis, selon leurs propres mots, était conditionnée par l'enjeu climatique. Donc il y aura forcément des forces de rappel. Donc il ne faut pas crier avant d'avoir mal, mais je reconnais que j'aurais préféré un promoteur des panneaux photovoltaïques que des fils barbelés.
On avait dit avant le début de la COP22 qu'elle serait celle de l'action et la COP de l'Afrique. Est-ce que ça a été le cas ?
Ça doit être la COP de l'Afrique, mais ça doit être la COP de l'adaptation, et ça doit être la COP où on se tourne prioritairement vers l'aide à ceux qui subissent depuis longtemps, sans en voir les premiers effets, enfin les premières aides, les effets du changement climatique. Il y a dans les différents piliers pour lutter contre les changements climatiques des piliers qui jusqu'à présent ont été prioritaires, notamment comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme la réduction tout simplement de notre consommation. Mais il y a deux piliers pour moi qui sont sous-estimés et sous-valorisés, qui sont l'agriculture et la réhabilitation des écosystèmes. Dit autrement, c'est que si nous n'utilisons pas les capacités de stockage naturel en les restaurant, pas simplement en cessant les dégrader, eh bien, à mon avis, nous nous mettons dans une situation encore plus délicate pour gagner la bataille climatique. Et notamment l'Afrique peut être, à mon avis, le continent prioritaire où il faut qu'à travers de nouvelles pratiques agricoles que l'Afrique possède, déjà dans notamment ce qu'on appelle l'agroécologie, mais il faut encourager évidemment et faire en sorte que ces filières deviennent demain la norme. L'agriculture, l'enjeu alimentaire, l'enjeu climatique, l'enjeu agricole, tout ça doit se voir dans un même objectif et une même priorité. Encore faut-il que des investissements se fassent pour soutenir cette pratique agricole. L'agroécologie peut être un pilier fondamental à la fois pour lutter contre les crises alimentaires, actuelles ou futures, mais également pour permettre au sol de stocker notamment du CO2. Et si l'on met les moyens sur la restauration des forêts, la restauration des zones humides et la restauration des sols, nous doublons nos chances de gagner la bataille climatique tout en répondant à des enjeux sociaux, et notamment en luttant contre le déplacement des populations.
Est-ce que les moyens sont suffisants pour l'instant ?
Non, pour l'instant pas, parce que justement, ce qui est important ici, c'est d'évaluer les modalités. C'est-à-dire qu'il y a eu les engagements des États, c'est une première étape, elle était nécessaire, il faut que chacun ait une feuille de route. Même si pour la plupart, ces engagements ne sont pas suffisants et que nous souhaitons que certains États n'attendent pas 2020 pour rehausser leurs ambitions. Mais ce qui est important ici, c'est de faire l'évaluation de ce qui va permettre aux États de réaliser ces engagements et de se mettre enfin sur la trajectoire d'une neutralité carbone. Et pour l'instant, me semble-t-il, les priorités n'ont pas été suffisamment mises sur l'utilisation d'un levier qui est l'agriculture et sur la restauration des écosystèmes. Et comme la plupart de ces écosystèmes sont dans les pays du Sud et notamment dans les pays africains, il y a une occasion magnifique, grâce, j'allais dire, à l'obligation climatique, de créer un modèle économique qui valorise les détenteurs de ces écosystèmes, pour les restaurer. Parce qu'en restaurant ces écosystèmes qui vont stocker notamment du CO2, ils rendent un service universel. Ce service universel doit être rémunéré par la communauté internationale. Donc c'est aussi une manière de lutter contre la pauvreté et de participer au développement.